En un de la grande crise, l'option vie. Yang Dong voulait se sauver, mais elle savait qu'elle avait peu d'espoir. Debout sur le balcon du dernier étage du centre de contrôle, elle contemplait sous ses pieds l'accélérateur de particules à l'arrêt. De la hauteur où elle se trouvait, elle pouvait tout juste voir l'intégralité de sa circonférence de 20 kilomètres. Contrairement à ce qui se faisait d'ordinaire, l'appareil n'avait pas été bâti dans une galerie souterraine, mais confiné au milieu d'un tunnel en béton hors du sol qui donnait l'impression d'un gigantesque point final dans le crépuscule. De quoi celui-ci marquait-il la fin? Yang Dong priait pour que ce soit seulement celle de la physique. Autrefois, elle avait la ferme conviction que la vie et le monde étaient laids, mais qu'à l'extrémité des échelles microscopiques et macroscopiques existait une merveilleuse harmonie. Le monde ordinaire, lui, n'était qu'une flaque d'écume flottant au-dessus de cet océan de perfection. Mais de ce qu'elle en savait désormais, c'était au contraire le monde qui était en apparence merveilleux, tandis que la réalité microscopique qu'il contenait et celle macroscopique dans laquelle il était contenu étaient probablement encore plus laides et chaotiques que lui. Cette réalité était trop effrayante. Yang Dong pouvait choisir de ne plus penser à tout cela, d'oublier la physique fondamentale, de continuer à vivre, de choisir un métier dans un autre secteur, de se marier, d'avoir des enfants et de couler des jours tranquilles comme toutes les autres femmes. Mais bien sûr, pour elle, cette vie ne serait que la moitié d'une vie. Il y avait en effet autre chose, sa mère, Iwenji. Yang Dong avait accidentellement découvert dans l'ordinateur de cette dernière des messages avec un haut degré de cryptage, ce qui avait suscité chez elle une forte curiosité. Une fois ouverts, les messages reçus n'avaient pas été détruits, mais simplement supprimés. Comme tous les gens de son âge, Iwenji n'était pas très familière de l'informatique et d'Internet, et elle ignorait que même en reformatant son disque dur, ces données pouvaient être récupérées sans peine. Pour la première fois de sa vie, Yang Dong avait donc agi dans le dos de sa mère. Elle avait restauré une partie des messages supprimés. La masse de données était colossale et elle y avait consacré plusieurs jours de lecture pendant lesquels elle comprit le secret qui unissait sa mère au monde de Trisolaris. Yang Dong fut assommé par le choc. Cette mère à qui elle devait tout était devenue à ses yeux une autre femme et, pire encore, une créature dont elle ne soupçonnait même pas l'existence en ce monde. Elle n'oserait pas se confronter à sa mère, jamais, car dès lors, celle-ci deviendrait réellement et irrévocablement cette étrangère. En lui laissant son secret, Yang Dong pourrait continuer à prétendre que sa mère était toujours la même et elle pourrait continuer à vivre. Mais bien sûr, pour elle, cette vie ne serait que la moitié d'une vie. Était-ce bien si grave de vivre à moitié? D'après ce qu'elle pouvait observer, beaucoup autour d'elle s'en contentait. Il suffisait d'être en mesure d'oublier et de prendre sur soi pour pouvoir mener une vie paisible, même à moitié vide. Mais ces deux réalités s'additionnant, c'était une vie entière qui lui était arrachée. Appuyée à la rambarde du balcon, contemplant le précipice en contrebas, Yang Dong était submergée par un sentiment mêlé de peur et de tentation. Elle sentit vibrer la rambarde qui supportait son poids et, aussitôt, elle recula d'un pas, comme si elle avait été victime d'une décharge électrique. Elle n'osa pas demeurer plus longtemps là et s'en retourna dans la grande salle des terminaux informatiques. La pièce était bondée de terminaux reliés à une unité centrale qui n'était pas directement connectée à l'accélérateur, mais destinée à l'analyse hors ligne des résultats obtenus lors des expériences menées. Toutes les machines avaient été éteintes quelques jours plus tôt, mais certaines d'entre elles avaient été rallumées aujourd'hui, ce qui apporta à Yang Dong une pointe de réconfort. Elle savait malgré tout que leur fonctionnement n'avait à présent plus rien à voir avec le collisionneur, car l'équipement était maintenant utilisé à d'autres fins. Il n'y avait dans la salle qu'un jeune homme qui se leva quand il la vit arriver. Ses yeux étaient chaussés de lunettes aux larges montures dont la couleur verte lui conférait une apparence singulière. Yang Dong expliqua qu'elle était venue récupérer quelques affaires qu'elle avait laissées ici. Quand Lunette Verte apprit son identité, il s'enthousiasma et lui expliqua quel programme l'unité centrale était en train d'exécuter. Il s'agissait d'un modèle mathématique de la planète Terre, permettant de simuler numériquement l'évolution de la configuration de sa surface depuis sa genèse. À la différence de projets antérieurs, ce modèle prenait en compte différents facteurs biologiques, géologiques, atmosphériques, océaniques et astronomiques. Lunette Verte alluma quelques écrans afin de montrer son fonctionnement à Yang Dong. Celle-ci vit s'afficher des éléments qui différaient beaucoup des traditionnels ensembles de courbes et tableaux de données. Des figures de couleurs vives derrière lesquelles on devinait les océans et les continents vus du ciel. Lunette Verte fit glisser avec agilité le curseur de la souris et zooma théâtralement sur quelques détails des figures, en les agrandissant jusqu'à ce qu'on puisse reconnaître une rivière ou une forêt. Yang Dong eut la sensation que le souffle de la nature parcourait ces endroits numérisés, jadis dominés par des données abstraites et théoriques. Elle en éprouva une sensation de délivrance. Elle écouta la présentation de Lunette Verte, puis elle prit ses affaires et le salua courtoisement, prête à partir. Au moment où elle se dirigeait vers la porte, elle sentit les yeux du jeune homme s'attarder sur elle. Elle avait l'habitude que les hommes la regardent ainsi et elle ne s'en offusqua pas, ressentant même cette fois dans son dos la chaleur d'un rayon de soleil en hiver. Soudain, elle fut saisie par le désir de se confier. Elle pivota alors et s'adressa à Lunette Verte. « Croyez-vous en Dieu ?» Yang Dong elle-même fut surprise par sa question, mais réfléchissant un instant au modèle actuellement en opération, celle-ci ne lui parut finalement pas si incongrue, ce qui ne fut pas sans la soulager. Lunette Verte resta lui aussi abasourdie par cette question. Il demeura un long moment la bouche ouverte avant d'oser prudemment « Quel genre de Dieu ?»« Eh bien, Dieu, » lui répondit simplement Yang Dong. Un sentiment écrasant de fatigue l'engourdissait à nouveau et elle n'avait pas la force d'en dire davantage. « Je ne pense pas. » Yang Dong désigna les continents et les océans qui s'affichaient sur un des grands écrans. « Et pourtant, pour qu'un environnement soit propice à la vie, chaque paramètre physique doit être rigoureusement respecté. Prenez par exemple l'eau à l'état liquide. Elle ne peut exister qu'à l'intérieur d'une fourchette étroite de température. » C'est encore plus évident à l'échelle de l'univers tout entier. Si les paramètres du Big Bang avaient différé de manière infinitésimale, les éléments lourds n'auraient pas existé et la vie n'aurait jamais vu le jour. Ne tenons-nous pas là la preuve d'un dessein intelligent ? Lunette Verte secoua la tête. Je ne suis pas un expert du Big Bang, mais vous vous trompez en partie au sujet de l'environnement terrestre. Si la Terre a certes permis la vie, la vie a, elle, changé la face de la Terre. Notre environnement actuel est le résultat de leurs interactions mutuelles. Lunette Verte réfléchit un instant, puis il attrapa la souris. Essayons de simuler une autre Terre. Il afficha sur l'écran une interface de configuration, un nombre étourdissant de fenêtres représentant différentes variables. Il décocha une option au sommet de la page et toutes les fenêtres se vidèrent. Voilà, nous avons désélectionné l'option « vie ». Observez maintenant l'évolution de la Terre sans aucun être vivant à sa surface. Je me permets de réduire la résolution car le calcul prendrait trop de temps. Sur un autre terminal, Yang Dong constata que la machine fonctionnait à pleine capacité. Les énormes engins qui ronronnaient comme des tigres électriques consommaient à cet instant même l'énergie d'une petite ville, mais elle ne demanda pas pour autant à Lunette Verte d'interrompre l'exécution. Sur le grand écran apparut une planète nouvellement formée. Sa surface était encore d'un rouge ardent, comme un morceau de charbon à peine sorti d'un fourneau. Le temps s'écoulait à l'échelle des âges géologiques. La planète se refroidit peu à peu, tandis que les couleurs et les motifs à sa surface variaient lentement mais sans relâche en un ballet hypnotisant. Quelques minutes plus tard, ce fut une planète de couleur ocre qui s'afficha sur l'écran, accompagnée d'un message indiquant que la simulation était terminée. L'opération est la plus grossière qui soit. Il faudrait un bon mois pour obtenir des résultats plus précis, expliqua Lunette Verte, tout en déplaçant son curseur de manière à faire un piqué depuis l'espace jusqu'à la surface de la planète. Le champ de vision offert par la machine plana au-dessus d'une vaste plaine désertique, frôla des pics montagneux à la forme insolite d'immenses colonnes et s'engouffra dans une dépression circulaire à la profondeur insondable qui représentait sans doute un cratère volcanique. « Où est-ce ? » demanda Yangdong, perplexe. « C'est la Terre. Sans vie, voilà à quoi ressemblerait notre surface, depuis l'aube de son évolution jusqu'à aujourd'hui. Mais, et les océans ? Il n'y a pas d'océan, ni de rivière. Tout est sec. Vous voulez dire que sans vie, il n'y aurait plus d'eau à l'état liquide sur Terre ? La réalité serait peut-être plus effrayante encore. Cela n'est bien sûr qu'une simulation triviale, mais elle vous permet au moins de mesurer l'influence de la vie sur l'état de la Terre aujourd'hui. Mais vous pensiez que la vie n'était qu'un élément minuscule, fragile et clairsemé. N'est-ce pas le cas? Vous négligez dans ce cas le pouvoir du temps. Imaginez une colonie de fourmis transportant chacune sans repos des fragments de cailloux de la taille d'un grain. Donnez-leur des milliards d'années et elles auront réussi à déplacer le monde-taille tout entier. Il suffit d'étirer suffisamment le temps et la vie se révèle bien plus forte que la roche ou le métal, plus puissante qu'un typhon ou un volcan. Mais l'orogenèse dépend pourtant de la tectonique des plaques. Pas nécessairement. La vie est certes incapable de faire naître des montagnes, mais elle peut modifier la répartition des chaînes montagneuses. Imaginez par exemple trois montagnes, dont deux recouvertes de végétation. La troisième, nue, va très vite s'éroder et s'affaisser. Quand je dis très vite, je parle d'une période d'un million d'années environ, ce qui est rapide à l'échelle de la géologie. Et dans ce scénario, comment les océans ont-ils disparu? Pour cela, il faudrait consulter le rapport du processus de simulation, ce qui demanderait un certain temps, mais on peut le deviner. Les végétaux, les animaux et les bactéries ont joué un rôle important dans la composition de notre atmosphère. Sans vie, les éléments de notre atmosphère seraient bien différents. Peut-être que celle-ci ne pourrait plus être en mesure de filtrer les rayons ultraviolets et les vents solaires, ce qui provoquerait l'évaporation des océans. L'atmosphère terrestre deviendrait rapidement une étuve à l'image de celle de Vénus. L'eau s'évaporerait dans l'espace. Au bout de plusieurs milliards d'années, la Terre deviendrait entièrement aride. Yangdong se tut. Elle observait en silence ce monde jaune et desséché. Par conséquent, la Terre que nous connaissons est un jardin bâti par la vie et pour la vie. Elle ne doit rien à Dieu. Lunette Verte croisa les bras devant l'écran, de toute évidence fière de l'éloquence dont il avait fait preuve au cours de son développement. Yangdong n'avait guère la tête à débattre de cette question, mais au moment où Lunette Verte avait décoché l'option « Vie » dans l'interface de configuration du modèle, une idée fulgurante l'avait parcourue. Et maintenant, une question terrifiante lui venait à l'esprit. « Et l'univers ?»« L'univers ? Quoi l'univers ?» demanda sans comprendre Lunette Verte, occupée à éteindre le processus de simulation. Si on utilisait un modèle mathématique similaire pour simuler l'évolution de l'univers tout entier, comme nous venons de le faire pour la Terre, et que nous désélectionnions dès le début l'option « vie », à quoi ressemblerait-il? Si les résultats sont corrects, il serait très probablement identique à celui que nous connaissons. Quand j'ai parlé des bouleversements provoqués par la vie sur un environnement, je me limitais à la Terre. En ce qui concerne l'univers, ma foi, même si la vie existait ailleurs, elle serait tellement rare que son influence serait forcément négligeable sur l'évolution du cosmos. Yangdong voulut ajouter quelque chose, mais elle se retint. Elle salua de nouveau Lunette Verte en se forçant à lui adresser un sourire de remerciement. Elle quitta le bâtiment et leva les yeux pour regarder le ciel où les étoiles venaient juste de poindre. Grâce aux informations qu'elle avait pu glaner dans les documents de sa mère, elle savait que la vie n'était pas rare dans l'univers, qu'il en était même plein à craquer. Ainsi donc l'univers a-t-il déjà été métamorphosé par la vie? Mais à quelle échelle et à quelle amplitude? Elle savait qu'elle ne pouvait plus se sauver. Elle arrêta de réfléchir. Elle contraignit son esprit à faire le vide, mais une autre question encore plus effrayante la hantait obstinément. La nature est-elle vraiment naturelle ?